Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez chaque jour. Vous montrer que oui, la France bouge et qu'elle regorge de bonnes idées. C'est vous qui les mettez en œuvre. Aujourd'hui, c'est au sport qu'on va s'intéresser car en janvier, les salles de gym enregistrent un boom d'adhésion. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres moyens aussi de se mettre ou remettre au sport. C'est une chaîne de restaurants qui fête ses 50 ans. Elle s'inspire de Steakhouse à l'américaine, Hippopotamus et l'entreprise qui va bien merci ce lundi. Et puis comment restaurer la confiance entre la grande distribution et les consommateurs ? Une start-up a peut-être bien trouvé la solution, c'est Connecting Food, sélectionné au Trophée de l'Avenir. C'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, venez, on vous attend, venez décrocher votre téléphone et dites-nous si vous aussi vous avez décidé, Anissa, de vous mettre ou remettre au sport en ce mois de janvier.
Et si vous avez décidé de tenir 12 mois, parce que prendre la carte c'est facile, mais après il faut tenir. On parle des bonnes résolutions sportives aujourd'hui sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. 3921, c'est le standard. Et puis on lit également toutes vos questions, vos messages, vos réactions, vos témoignages sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Et oui, parce que selon le baromètre publié par la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, vous êtes, et oui, nous sommes même 36% à nous être fixé la pratique d'un sport cette année comme objectif. C'est donc 4% de plus que l'année précédente. Évidemment, l'ambition, c'est de tenir, hein, comme vous le disiez, jusqu'au mois de décembre. Mais encore faut-il aussi savoir à quelle porte aller taper. Si vous n'êtes pas du genre à enfiler tout seul vos baskets pour aller courir, il y a des solutions qui s'offrent à vous. Et nos invités vont vous le montrer pour les recevoir à mes côtés comme chaque jour. Elisabeth Assayagela, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Mathieu Davy, avocat, fondateur de Call a Lawyer. Bonjour Mathieu.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Il y a en France un acteur qui a peut-être très tôt vu qu'il y avait un créneau à prendre, en tout cas qui s'est imposé dans ce secteur des salles de sport. Nous sommes en 1979. Aujourd'hui, vous le connaissez sous le nom de CMG Sports Club. Bonjour Renaud Carpe.
Bonjour.
Vous êtes le responsable du développement stratégique de CMG. À l'époque, dites-moi, en 79, ça ne s'appelle pas du tout comme ça. C'est le Gymnase Club.
Alors effectivement, en 1979, ça s'appelait Gymnase Club et on était donc les pionniers.
Oui. Comment est née l'idée à l'époque? Vous savez ça?
En fait, c'était une projection de ce qui se passait aux États-Unis. Donc il y avait ça a commencé les gens faisaient du sport en faisant de l'haltérophilie. Après l'haltérophilie, les gens ont voulu en faire davantage, donc on a rajouté le cardio. Donc voilà, et après, on s'est inspiré et de là est né le premier réseau de salles de sport en France, donc Gymnase Club.
Alors Gymnase Club qui devient ensuite le Club Med Gym et puis qui rechange de nom aujourd'hui CMG. Ah. Les gens ne sont pas un peu perdus de voir tous ces changements? Il y a un besoin justement de changer de nom, changer d'identité?
Alors après, on avait une obligation de changer de nom. Et au fait, ce qui était important aussi pour nous, et c'est pour ça qu'on a choisi CMG Sports Club, c'est qu'on a voulu mettre le mot sport et gommer le mot fitness, voilà, qui pouvait être parfois un petit peu réducteur. Et c'est vrai que le sport, enfin le fitness, est vraiment devenu un sport à part entière. Et c'était une façon de lui donner ses lettres de noblesse.
Elisabeth, on est nombreux, enfin je dis on, je ne devrais pas dire on d'ailleurs, hein, ils sont nombreux les Français à s'inscrire
moi aussi
aux salles de sport.
Près de 5 millions de Français fréquentent les salles de sport, alors dans le terme fréquentation, hein, chacun y met ce qu'il veut, mais c'est un marché en croissance, hein, d'après les prévisions du cabinet Deloitte, on estime à 5% par an le potentiel de croissance du marché des salles de sport. Ces dernières années, le prix de l'abonnement, généralement sans engagement, a chuté de 60 à 41 euros en moyenne par mois. Les salles sont montées en qualité, même s'il y a toujours des salles très premium, mais elles sont montées en qualité, en propreté et en confort.
Justement, vous vous êtes positionné sur ce créneau-là, c'est-à-dire que ce qui était avant le Club Med Gym et qui est aujourd'hui le CMG, c'est vraiment cette image de qualité à la française que vous avez voulu offrir, y compris à l'intérieur des salles de sport.
Complètement. En fait, pour nous, la machine ne pourra jamais remplacer l'homme. Et l'homme est vraiment le pilier de notre offre. Et c'est vrai que sans accompagnement, on a des adhérents qui vont venir en salle de sport et qui vont être un peu livrés à eux-mêmes. Et finalement, il n'y a rien de pire que d'arriver dans une salle, ne pas savoir comment l'utiliser. Peut-être qu'on ne connaît pas non plus aussi son corps, on ne connaît pas aussi ses objectifs et il y a vraiment un besoin de prise en main.
Un besoin d'être guidé, d'être accompagné.
D'être accompagné. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que on est motivé les premiers jours, enfin en janvier on va être motivé et comme vous le disiez, il faut être motivé tout au long de l'année. Et on sait que d'ici, on va dire début février, mi-février, la motivation va commencer à baisser. Donc il est important de prendre les adhérents au tout début quand ils arrivent et justement pour leur expliquer comment fonctionne une salle de sport.
Parce que ça signifie qu'il faut faire un programme avec eux pour être certain de les fidéliser aussi et faire en sorte qu'ils n'arrêtent pas en cours de route.
En fait, il faut un programme effectivement personnalisé. Ce qui est aussi important, c'est-à-dire le pire ennemi de la motivation, c'est la routine. Et finalement, quand vous allez dans une salle de sport et que vous faites la même chose, au bout de plusieurs mois, finalement, vous allez vous habituer. Finalement, vous n'avez plus retrouvé d'intérêt. Donc, l'intérêt, nous, ce que l'on fait, c'est de proposer une multitude d'activités, ce qui va vous permettre de changer tout au long de l'année. Et surtout, en fonction de l'évolution de votre forme, vous allez faire d'autres activités qui peuvent être plus intensives, par exemple.
Vous avez mis en place un centre de formation. C'est important, justement, d'avoir une méthode qui soit celle de CMG et pas une autre. Et c'est cette méthode-là qui est appliquée dans vos centres.
Alors, effectivement, on a un centre qui s'appelle l'Institut des métiers de la forme, qui forme tous nos coachs. Et ce qui est important, c'est que tout le monde peut s'improviser un petit peu coach. Sauf que la santé, c'est important. Le corps, vous n'en avez qu'un. Il faut le préserver, il faut le faire attention. Donc, il faut le mettre entre les mains de professionnels.
Et vous en employez des professionnels 540, c'est ça en Ile... Vous êtes en Ile-de-France, essentiellement.
On est uniquement en Ile-de-France et on a à peu près 340 coachs.
Que dit le nôtre de coach Mathieu Davy ?
Le sport, il faut en faire, bien sûr, et c'est indispensable. Mais on est bien d'accord qu'on est quand même sur un business de la souffrance. C'est-à-dire que quand on y va, quand on s'inscrit, c'est bien qu'on doit être plus beau, on se sent lourd, on veut se rendre... Donc on y va, et on y va en se disant c'est une résolution, et je paye pour ça. Et d'ailleurs, on a des commerciaux qui sont très bons, et qui nous flattent, et qui nous montrent tout pendant une demi-journée, et on y va. Et après...
Ça sent le vécu.
On n'y va plus. On n'y va plus et on a payé en une fois, souvent d'ailleurs, pas forcément mensualisé, mais en une fois un abonnement. De toute façon, on est engagé sur un an et on n'y retourne plus parce que c'est la souffrance. Il faut se dire la vérité. Donc on souffre deux fois. On souffre parce qu'on n'y va pas et on souffre parce qu'on y va. Et donc, c'est un point d'humour. Mais
c'était le témoignage du coach.
Comment vous faites, oui, c'est du vécu. Comment vous faites pour faire en sorte effectivement que vos clients restent et reviennent et les remotiver peut-être avec des nouvelles séances de coach, parce qu'une fois vous dites faut pas les laisser à l'abandon. On est bien pris en charge au début, mais après pas forcément. Et ce serait bien que tous les trois mois au moins il y ait peut-être une sorte de suivi, comme un suivi médical, mais finalement c'est pas très loin, on est sur la santé là quand même. Et est-ce que aussi dans vos documents commerciaux et juridiques, vous avez fait un peu évoluer cette notion de tacite reconduction qui parfois est pas très claire, et du coup en fait on laisse couler l'abonnement pendant des années. Et nous, on n'y va plus. Et
ouais,
objectivement, c'est aussi un peu de votre responsabilité de faire attention à ça, à ce qu'un un sportif du dimanche ne le soit pas qu'un dimanche par an.
Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre que... parce que c'est vrai qu'on est nombreux et je me mets dans le lot. Hein. Moi aussi, j'ai pris évidemment des abonnements et je les ai arrêtés en cours de route. Je n'ai pas tenu ma bonne résolution du mois de janvier.
Mais là où je trouve dommage, c'est que vous associez le sport avec la souffrance. Alors vraiment, moi, les gens qui sont chez nous associent le sport au plaisir et puis surtout la confiance en soi. Parce qu'effectivement, quand on arrive dans une salle de sport, on peut se dire « mais est-ce que je vais pouvoir être à l'aise ?» Vraiment, je précise quelque chose qui est assez important, c'est qu'on a toujours peur d'entrer dans une salle de sport en disant « tout le monde va me regarder ». Et en fait, non. Personne ne va vous regarder, mais c'est vous qui allez regarder les autres. Pourquoi ? Parce que vous allez essayer de détecter comment les uns et les autres s'entraînent et vous allez essayer de vous calquer à leur entraînement en disant « voilà, je vais faire comme eux pour leur ressembler
ouais. ».
Et c'est là où je dis…
C'est pas du tout ce qu'il faut faire.
C'est pour ça qu'il faut, et je reviens aux professionnels, il faut vraiment s'en remettre au coach qui vont vous donner les méthodes d'entraînement qui vont être adaptées à votre objectif.
On reste ensemble, on continue à parler sport et santé sur Europe.
Et il est très Europe 1.
Il y a les salles de gym historiques et puis les jeunes pousses qui bousculent aussi le marché. C'est le cas de Neoness qui, en 10 ans, a révolutionné le secteur. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et la France fait du sport en ce début d'année avec les Voilà, ça y est, on y est là. Là, on a envie de bouger, là, on a envie de courir sur le tapis avec Véronique et Davina, effectivement. Aujourd'hui, nous bougeons avec vos invités, Raphaël Duchemin. Alors, dites-nous si le sport fait partie de vos résolutions de ce début d'année. N'hésitez pas à partager vos expériences. Vous avez peut-être, vous aussi, pris une carte d'abonnement. Vous n'y êtes jamais allé. Venez nous le dire, 3921 ou Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et oui, comme pour les hôtels ou l'avion, le secteur des salles de gym a lui aussi été investi par de nouveaux acteurs venus en quelque sorte bousculer le marché et surtout faire évoluer l'offre, les tarifs également. C'est le cas de Neoness qui a ouvert son premier club en 2008. Bonjour Marianne Tessier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé Neoness. Racontez-moi, comment est venue l'idée? Parce que ce n'était pas du tout votre métier de départ. Vous avez vendu pendant pas mal de temps pour un gros groupe des lessives, des shampoings. Et puis arrive l'aventure Neoness.
Je suis passée aussi par l'UCPA qui était dans le sport un petit peu. Mais non, c'est avant tout une aventure entrepreneuriale. Et globalement, mon associé avait des affinités avec les Pays-Bas. Et on a découvert ce concept de salle de sport accessible aux Pays-Bas. Et on trouvait ça absolument fabuleux, parce qu'à l'époque, on avait 25-26 ans. Et c'est vrai qu'on avait déjà cette envie de faire du sport et on savait que c'était important, mais les tarifs étaient quand même assez élevés. Et là, on avait trouvé une offre qui permettait de faire son heure de tapis, de faire son heure de cours collectif, etc., pour 3-4 fois moins cher, en enlevant tout ce qui était utilisé par moins de gens, genre sauna, hammam, etc. Et donc, on s'est dit, ça devrait marcher en France aussi, et on a importé le concept. Exactement.
Donc, vous êtes toutes les deux, et finalement, vous réinventez ce concept, vous enlevez aussi pas mal de choses dans l'offre. Hein. Par exemple, quand on vient chez vous, si on veut prendre une douche, il faut mettre une pièce dans...
Alors maintenant, c'est un abonnement à 1€ par mois.
Voilà. Ouais. Moi, je suis venue chez vous et c'était encore avec la pièce. Vous avez fait comment pour réussir vraiment à casser les prix?
En fait, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, en effet, on ne paye que pour ce qu'on consomme. La douche, par exemple, est un point clé puisqu'il n'y a que 25% des gens qui se douchent en salle de sport. Pourquoi? Parce que, et c'est majoritairement les femmes, voilà, parce qu'on aime se prendre son temps, se doucher chez soi, etc. Donc nous, on s'est dit, on arrête de payer pour des packages globaux où on n'utilise pas les trois quarts des choses et on ne paye que pour ce qu'on consomme. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, ça a été aussi de processer beaucoup de choses. On a développé beaucoup d'outils informatiques pour que ce soit, qu'on rationalise et que ce soit plus efficace. Mais on n'a absolument jamais économisé sur le cœur de la prestation, à savoir le sport avec des machines de qualité et aussi de vrais coachs. J'insiste, parce qu'on est un peu les seuls sur ce segment de marché, avoir des vrais coachs avec des vrais cours collectifs, et de l'accompagnement plateau le soir.
Vous avez combien de coachs aujourd'hui?
On a un peu plus de 200 coachs.
Ça marche bien, ça marche même très bien. Vous en avez ouvert beaucoup hein, en 10 ans, des salles. Vous en avez combien aujourd'hui?
On en a 31.
31, avec de très très grands espaces. Vous essayez de vous mettre en périphérie des villes, à proximité. Comment est-ce que vous choisissez les emplacements?
On est majoritairement parisien quand même. On a 18 clubs dans Paris, sur des surfaces en moyenne de 1500 m². Donc en effet, ce sont des grosses surfaces. Et puis on est aussi en Ile-de-France. Et aujourd'hui, on est à Lyon, Marseille, Nantes et Rouen. Donc voilà, on est plutôt cœur de ville, on va dire.
Elisabeth, les salles low cost, alors je ne sais pas si le terme vous plaît.
On est plutôt smart cost.
Oui, bon.
C'est quoi la différence?
En tout cas, elles ont le vent en poupe, hein, on est d'accord.
Alors, je vais vous en citer d'autres que Neoness, Basic Fit, Keep Cool ou encore Fitness Park. Alors, leur point commun, c'est qu'elles ont toutes des consonances anglo-saxonnes, mais ce sont des salles de sport françaises. Leur principe, c'est qu'on se dépense, qu'on brûle nos calories, mais sans dépenser de sous, en proposant des offres d'abonnement. Alors, ça peut aller jusqu'à 20€ le mois. Pendant les heures creuses, par exemple, ces salles tirent les tarifs vers le bas et à ce moment-là, avec du bon matériel, c'est ce que vous venez de nous décrire, elles peuvent concurrencer de plus en plus les salles dites premium.
Oui, et puis il y a Internet aussi qui est passé par là.
Ah oui, alors là, je vais vous en citer quelques-uns que vous connaissez peut-être. Sonia Tlev, Lucille Woodward ou encore Thibaut InShape. Lui, il est toulousain, il a 26 ans, il a plus de 5,5 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Lui, c'est plutôt de la musculation.
tous donnent des cours en ligne. Donc, on peut aussi faire du sport en se connectant tout simplement sur Internet.
Et puis, vous parliez des salles. On a une tendance aussi qui est en train de se développer. C'est le 24 heures sur 24. Ça marche bien ?
Oui, ça marche très bien parce que pour que ce soit accessible à tous, eh bien, il faut s'adapter aux horaires de chacun. Donc, vous avez par exemple Fitness Park ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ou encore une là, qui va ouvrir d'ici quelques jours à l'intérieur de la gare Saint-Lazare à Paris. C'est du haut de gamme, c'est la salle de sport l'usine. Pour les plus matinaux, eh bien, ils pourront aller faire du sport dès 6h30 du matin. Et le soir, c'est ouvert jusqu'à 22h et c'est en plein milieu d'une gare quand même.
Alors, question à tous les deux. On est obligé de se mettre à la page en permanence. On est obligé de revoir les horaires d'ouverture, de revoir les tarifs. C'est quelque chose qui est, c'est un secteur qui est bousculé, qui est challengé quasiment tous les ans. Hein.
Complètement, oui. En effet, enfin, l'innovation, à mon avis, c'est comme dans n'importe quel secteur, l'innovation est clé pour justement apporter toujours plus, casser une routine, répondre aux nouvelles tendances. On a là une tendance bien-être de fond, il faut s'adapter. Il y a la tendance de l'entraînement fonctionnel, retour un peu au basique. Il faut évidemment répondre aux attentes. Et heureusement, sinon, en effet, c'est la routine, on s'ennuie. Donc, à nous aussi d'innover en permanence pour que le sport soit toujours un plaisir.
Même chose pour vous, Renoka.
Oui, puis apporter des prestations complémentaires. C'est vrai que nous, par exemple, chez CMG, on a créé ce qui s'appelle des bulles où on propose des personnels de professionnels de santé, à savoir des naturopathes, des ostéopathes, voilà. Et du coup, ça permet vraiment de créer un lien. Et bah, du coup, c'est ce qui fait le côté premium de la marque.
Que dit notre coach ?
Si on fait tout ça, quand même, c'est pour être plus beau. Et je me dis qu'on est aussi dans un espace de rencontre.
Aussi pour se sentir mieux. Hein.
C'est
oui, puis
chose
pour la santé, on parle la de santé. Plus en plus de risques cardiovasculaires, etc. Pour le cardio notamment. Enfin,
et tout ça fait partie donc d'être mieux. Et effectivement, est-ce que c'est des endroits de rencontre ? Parce que je me dis qu'effectivement, c'est d'abord très mixte. Et ensuite, comme on est dans une logique d'aller mieux, d'être plus beau et de se montrer sous son meilleur profil, est-ce que vous identifiez que vous avez ou pas des rencontres ?
Vous m'avez jamais vu en
c'est comme ça que je le vois personnellement.
On n'est pas au mieux.
Alors, très honnêtement, c'est vrai que nous, on ne se focus pas là-dessus, ce n'est pas l'objet premier. Donc voilà, maintenant, naturellement, ça doit se faire. Et je sais pas, il y a une étude qui est sortie, enfin, il y a un site de rencontre qui a classé les 10 clubs les plus, où il y avait le plus de crush ou je ne sais pas quoi. Donc oui, en effet, ça doit être une réalité.
Oui, pourquoi pas. C'est un lieu comme un autre hein,
bien
pour
sûr,
se rencontrer,
exactement.
Évidemment. Allez, on reste ensemble, on continue à faire du sport sur Europe 1
aujourd'hui. Il est 13h18.
Europe 1.
Et si un entraînement devenait aussi un jeu ? C'est l'idée développée par MoveLab, nous muscler en nous proposant une immersion dans une histoire dont on devient les acteurs. A tout de suite.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 et aujourd'hui c'est le cas de le dire puisqu'on se met au sport. C'est l'une des activités privilégiées pour ces bonnes résolutions de ce début d'année. Venez nous dire si vous êtes inscrit dans des salles de sport, depuis combien de temps, est-ce que vous y allez ou pas. Venez nous parler de vos expériences dès maintenant sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et puis au 3921 on vous écoute, c'est le standard d'Europe 1, Raphaël.
Il faut faire, devinez combien, 150 minutes de sport par semaine pour être en bonne santé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'Organisation mondiale de la santé. Pour nous aider à garder la forme, eh bien c'est vrai qu'on l'a vu, hein, les salles rivalisent d'ingéniosité en faisant appel aussi à de nouveaux produits. Bonjour Laurent Frétrich.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé MoveLab. MoveLab, c'est une start-up spécialisée dans ce qu'on appelle le fitness interactif. Votre idée, c'est en fait de rendre tout ça beaucoup plus ludique, hein, finalement, en nous faisant entrer à la fois dans la salle et dans un jeu pour nous inciter tout simplement à nous muscler.
Oui, c'est exactement ça. On fait des capteurs de mesure d'activité sportive pour les salles de fitness et on s'est rendu compte que ces capteurs, au-delà des capteurs supplémentaires comme il s'en fait beaucoup, pouvaient offrir aux salles de fitness des évolutions intéressantes parce que ça permet d'agréger, de remonter de la donnée, de créer beaucoup de data, donc de pouvoir fidéliser mais aussi créer une expérience nouvelle. Donc on peut agrémenter des activités sportives classiques comme par exemple un studio vélo où on va faire de la remontée de data des pratiquants, mais aussi des choses beaucoup plus complexes puisqu'on travaille sur machine, mais également hors machine. Nos capteurs sont suffisamment intelligents puisqu'ils ont de la reconnaissance de mouvement pour pouvoir mesurer toutes les activités, qu'elles soient sur machine, donc vélo, rameur, mais aussi à l'extérieur, que vous fassiez des squats, des tractions, des pompes. Et donc ça offre des perspectives très intéressantes, donc notamment celles que vous évoquiez,
Donc tout a démarré en fait avec ces fameux capteurs. Oui. Il y a 3 ans, je crois, environ, vous dites, vous rencontrez hein, les 3 cofondateurs sur un tatami, je crois. Oui. Et puis vous vous dites, bon, ça serait quand même bien qu'on puisse mesurer la force de frappe, etc. Et ça va vous donner l'idée de ce qui va venir après, c'est-à-dire cette immersion, enfin mettre des capteurs un peu partout, notamment dans des gants de boxe que vous avez présentés au CES de Vegas l'année dernière.
Non,
il y a deux ans, 2017. Ah, ouais. Et ensuite, vous vous dites finalement, on peut les mettre partout et les utiliser autrement.
C'est ça. C'est-à-dire que faire des capteurs pour faire des capteurs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et on s'est rendu compte que faire des capteurs pour le monde de la boxe, c'est vrai que c'était sympa. Moi, je viens des sports pieds-poings, je suis enseignant d'arts martiaux. Ça fait 30 ans que je pratique, donc on s'est dit, ok, c'est super, mais ça intéresse très peu de monde. On s'est donc intéressé aux activités qui étaient connexes, donc le fitness boxing, et puis on a découvert, mais vraiment, on a découvert le monde du fitness. On s'est dit, bon sang, il y a un environnement qui est en pleine évolution, avec des taux de croissance importants, avec des gens qui se cherchent aussi sur pas mal de sujets, notamment la digitalisation. Et l'idée de se dire, et si on proposait, et si on était capable de digitaliser l'ensemble des activités d'une salle de fitness, ce qui est aujourd'hui très compliqué, parce qu'on sait récupérer de la donnée d'un vélo ou d'un rameur, parce que souvent c'est déjà équipé, mais quid lorsque je fais des squats, lorsque je fais des abdos ou des pompes. Et donc grâce à cette reconnaissance de mouvement qui est la puissance même de nos capteurs, on a réussi à produire quelque chose qui nous permet donc de scénariser aussi les activités. Donc comme vous le disiez, on peut faire du jeu vidéo, du fitness jeu plus gamifié, mais on peut aussi être sur des activités beaucoup plus classiques.
C'est-à-dire que je vais monter sur un vélo, je vais commencer à pédaler. Au lieu de regarder les écrans qui sont face à moi et les bandeaux qui passent, je vais être à l'intérieur d'un jeu, gravir une montagne, faire une descente, ou même être à l'intérieur, j'ai regardé ça, d'un crash d'avion.
Oui, voilà. Donc y a, sur un plateau, on peut faire des choses très simples.
Scénariser vraiment.
Oui, avec un plateau biking, on peut faire des choses très simples. Vous faites du vélo assez naturellement avec votre coach, et puis tout d'un coup, il y a un pop-up qui jaillit, qui dit bah voilà, pendant une minute, là, il y a un défi personnel ou un défi de groupe. Jusqu'à, et c'est ce qu'on est en train de développer avec une très grande enseigne de fitness qui s'appelle Keep Cool. Donc je vous fais la primeur aujourd'hui.
On en a parlé tout
voilà,
à l'heure. Ouais.
Donc on va ouvrir dans quelques semaines un studio où là, plutôt que de faire des abdos fessiers comme on peut faire chez Keep Cool, eh bien, vous pourrez choisir l'option où effectivement vous avez une aventure dont vous êtes le héros physique. Et donc vous allez passer un certain nombre d'étapes, comme si vous lisiez un livre, vous avez différents chapitres. Et pour passer du chapitre au chapitre 2, il faudra avoir fait le chapitre 1. Et donc vous devrez avoir réalisé un certain nombre d'épreuves.
Comme à l'époque des jeux de rôle finalement, un peu.
Oui, sauf que là c'est du vrai sport. C'est du vrai sport. Quand vous ferez des squats, vous ferez vraiment des squats pour faire des squats. Et si vous les faites mal, grâce à la reconnaissance de mouvement, on saura que ce n'est pas bon.
Et alors, vous ne pourrez pas progresser. C'est individuel, ça peut être collectif aussi.
Bien sûr, oui, ça peut être collectif. Dans les studios, on peut être 3-4 personnes. Sur les studios biking dont je parlais tout à l'heure, vous pouvez avoir 20 personnes qui vont avoir des interactions différentes.
Que dit notre coach ?
Il faut stimuler le cerveau. Donc c'est vrai que revenir au jeu, c'est revenir au sport en fait. C'est revenir à un sport collectif et c'est ce qui fait que ça passe plus vite. Il n'y a rien de plus ennuyeux que de courir pendant une heure sur un tapis. Ça, c'est vrai que de ce point de vue-là, vous avez trouvé une solution. Si vous le gamifiez, c'est encore mieux. On pourrait imaginer par exemple une course-poursuite avec des CRS dans une manifestation de gilets jaunes. Ça stimule. Peut-être qu'on peut cramer 1000 calories
un samedi
après-midi. On voit
l'avocat pointer son nez toujours.
Non, mais sans rire, je pense que si on peut revenir au jeu, je pense que le cerveau, du coup, passe mieux l'effort et donc ça va plus vite et on fait plus de sport. Je pense que c'est l'idée.
Oui, c'est l'idée. Et surtout parce qu'on en parlait tout à l'heure pendant la pub entre nous, on utilise aussi beaucoup sur les écrans de vélo ou de tapis de course. On peut regarder Internet, on peut regarder ses mails. Le problème, c'est que ça ne stimule pas beaucoup l'activité physique parce que ça prend trop d'énergie au cerveau. Alors que si on se met dans un scénario qui est gamifié mais qui pousse à l'activité, là, on a de meilleures performances. Il faut penser que quand on remonte de la donnée, c'est aussi un très bon moyen pour les salles de rendre visible la promesse client. Vous avez progressé. Et quand vous disiez que les gens se désabonnent, imaginez, les gens se désabonnent, vous arrivez, ils viennent pour se désabonner, vous leur dites, regardez, vous avez progressé sur la période qui est passée. Ou alors, bah oui, vous vous désabonnez, mais vous ne progressez pas parce que vous ne venez pas. Et donc, ça permet d'avoir beaucoup, beaucoup de données, qui permet aussi de bien mieux travailler pour les salles.
Et à la fin, on ressemble à Lara Croft.
Exactement. On reste ensemble, on va essayer dans un instant de ressembler justement à Lara Croft. À tout de suite.
Il est 13h28.
Europe 1.
Avec vous aussi, bien sûr. 39-21, vous nous appelez, venez nous faire partager votre expérience. Est-ce que vous allez en salle ? Est-ce que vous avez arrêté ? Vous venez nous le dire. Partagez aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1. À tout de suite.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge et aujourd'hui on fait du sport, on découvre toutes les méthodes grâce à vos invités aujourd'hui. Raphaël Duchemin, venez nous parler de vos bonnes résolutions et notamment celles du sport. 3921, c'est le standard. Vous pouvez également réagir, témoigner, poser vos questions sur Twitter, hashtag Europe 1, Raphaël.
Laurent Frétrich, cofondateur de MoveLab, est avec nous. Marianne Tessier, cofondatrice de Neoness, et Renaud Carpe, responsable du développement stratégique chez CMG Sports Club. Notre coach à nous, c'est Mathieu Davy aujourd'hui, évidemment à mes côtés comme chaque jour. Elisabeth Assayag est là. Elisabeth, on n'a pas parlé, il y a énormément d'applis aussi pour faire du sport, pour ceux qui n'ont pas envie de se déplacer.
Oui, il y en a énormément. Alors, je vais vous parler de celles qui sont les plus connues ou les plus téléchargées. Vous avez Runtastic, c'est l'application, c'est gratuit. Elle est très simple, c'est pour suivre ses performances quand on fait du running, c'est-à-dire quand on fait de la course à pied. Itinéraire GPS, distance parcourue, vous avez votre temps moyen en kilomètres heure et votre temps total réalisé. Vous avez les marques qui se sont mises sur les applis, hein, pourquoi c'est quand même un bon moyen de conserver ses clients. Vous avez Nike Training Club qui s'adresse surtout aux femmes. Comment brûler les graisses, affiner le tour de taille. On vous donne des conseils, des démonstrations en vidéo au programme. Les premières sessions sont gratuites. Vous avez Adidas My Coach, c'est une application de coaching. Avec là aussi des conseils vidéo, on surveille votre fréquence cardiaque et on surveille même l'état d'usure de vos chaussures. Bon, ça c'est peut-être pour que ensuite vous alliez au magasin, vous racheter une paire d'Adidas. Vous avez Abdo en 8 minutes, 3 niveaux d'intensité pour des exercices d'abdos avec un programme là aussi en vidéo. Un système d'alerte, Raphaël, ça c'est pas mal pour nous, oui. Pour vous dire de vous mettre au travail pour la prochaine séance.
Oui, je vois bien.
Vous avez 7 minutes workout, alors ça c'est idéal pour les personnes qui ont des emplois du temps un peu chargés. Là, vous n'avez pas le temps d'aller à la salle de sport et c'est une application qui vous propose un entraînement intense pendant 7 minutes, vous le casez où vous voulez. Et enfin, 5 minutes de yoga. Le yoga c'est quand même bien, on a l'impression de ne pas faire du sport et on en fait un petit peu. C'est pour les pressés qui ont quand même besoin de décompresser. 350 sessions de yoga que vous pouvez caser aussi à n'importe quel moment de la journée.
Vous avez, vous aussi, développé des applis justement pour aider finalement ceux qui ne restent pas peut-être à revenir un peu plus facilement dans vos différentes salles. Oui ?
Oui, oui, complètement. Enfin, aujourd'hui, on a une application d'entraînement. Vous retrouvez toutes les machines de la salle et ça vous donne des programmes selon vos objectifs. Et là, on travaille, nous, sur une appli qui va encore beaucoup plus loin, beaucoup maillée avec toute la notion de data et tout ce qui est levier motivationnel. Qu'est-ce qui vous motive justement? Venir avec des amis, pas venir avec des amis, suivre mes performances. En fait, chacun trouve des leviers motivationnels différents. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus.
Sur le sur-mesure, finalement, hein, c'est un peu ça, non?
Ben nous aussi, on a une application et en fait, qui permet aussi de s'interconnecter avec tous ceux que vous avez cités, notamment Runtastic. Comme ça, ça permet d'avoir à la fois mes entraînements indoor et mes entraînements outdoor. Voilà, comme ça, c'est histoire de réconcilier ces deux disciplines, puisque ces deux disciplines ne s'opposent pas. Au contraire, il faut pratiquer dans les clubs et aussi à l'extérieur.
Je crois qu'on a un appel au 3921. C'est Anthony qui a composé le numéro du standard d'Europe 1. Anthony qui aimerait bien se remettre au sport cette année. Bonjour Anthony.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Alors, bonjour. Que se passe-t-il et comment est-ce qu'on peut vous aider?
Alors, m'aider, je ne sais pas, on va voir ça. Alors moi, je n'ai pas fait de sport depuis le lycée, c'est-à-dire depuis à peu près 20 ans. J'ai un peu de poids à perdre, environ 10 kilos, et surtout pour de la remise en forme, je compte me mettre à la course à pied et non pas au running. Je ne supporte pas les anglicismes, d'ailleurs si vos intervenants pouvaient en utiliser un peu moins.
Du running, bien, course voilà. À pied.
Donc de la course à pied, et sinon un coach, un entraîneur, c'est bien aussi. Voilà, donc j'ai envie de me mettre à la course à pied à mon rythme, parce que évidemment, je suis plus du tout sportif. Et si je cours 20 minutes, je pense que je vais mourir. donc il va falloir absolument que je fasse doucement à mon rythme et augmenter le rythme petit à petit. Peut-être avec l'aide d'une petite application, mais je pense me limiter à ça.
Alors, c'est quelque chose de possible. Il faut y aller progressivement. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Sinon, on s'arrête très vite. Hein. Je regardais une partie des adhérents, une grande partie, abandonne au bout de 40 jours. Ce sont des statistiques officielles qui sont tombées. Du coup, si on veut pouvoir fidéliser et pouvoir aider les gens, il faut justement y aller progressivement et pas se surévaluer.
Il faut surtout, en effet, comme disait Renaud tout à l'heure, créer une routine sportive dès le départ. Qu'il soit pas, là, c'est comme le mot le dit, ça doit être une routine, quelque chose qu'on peut tenir sur le temps. Et au début, il faut se forcer un peu. clairement, mais c'est ça l'essentiel. Donc en effet, là, pour reprendre la course à pied, il faut commencer petit à petit, se fixer des objectifs précis et puis progresser à son rythme.
C'est pareil avec le jeu, et ça peut être une aide.
Le jeu est une façon de diversifier, de créer de l'incertitude, et voilà, vous savez jamais vraiment à quoi vous attendre. Donc vous oubliez que vous êtes en train de faire du sport, vous faites du sport sans vous rendre compte, et j'insiste, ça reste d'abord du sport dans lequel on met une part de jeu et d'incertitude qui est plus ou moins forte en fonction des solutions qui sont proposées. Oui.
Anissa, on avait quelques messages, quelques petits clins d'œil.
Et on a des questions sur Twitter de Michel qui nous dit « J'ai 53 ans, je pratique à raison de 2 fois 45 minutes par semaine. Je fais de l'aquabike, vous savez, c'est le vélo dans l'eau à la piscine. Plus de marche quotidienne, j'ai abandonné la voiture. Est-ce une bonne chose ?»
Ah,
c'est une très bonne chose. Voilà, c'est une très bonne chose, effectivement, d'avoir une activité sportive. Après, j'aurais juste envie de dire qu'il faut... diversifier la pratique, parce que si on fait toujours la même activité sportive,
que de l'aquabike, par
voilà,
exemple,
le muscle va tomber lui aussi dans une routine, et à un moment pour progresser, pour ne serait-ce qu'améliorer son endurance, son souffle, il faut varier. Alors pourquoi pas justement faire 5 minutes de course à pied ou autre chose.
Et je me permettrai de dire que le corps ne fait pas la différence entre marcher et faire du tapis de course, il ne fait pas non plus la différence entre porter les courses et soulever de la fonte. Donc il peut y aller, dites-lui aussi de faire les courses et de prendre les escaliers plutôt que les escalators.
Oui, ça c'est vrai que ça marche très bien. Merci à tous les trois d'être venus en tout cas nous parler sport aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h38.
Europe 1.
Vous restez avec nous, elle a fêté ses 50 ans l'année dernière et s'inspire du steakhouse américain, mais à la française, Hippopotamus et l'entreprise qui va bien. Merci.
La France bouge et tous les jours, Raphaël Duchemin, vous nous proposez une entreprise française qui va bien. Celle d'aujourd'hui, c'est une chaîne de restauration très très familiale.
Oui, les Français la connaissent bien effectivement, Anissa, parce qu'il y a aujourd'hui 140 restaurants dans l'Hexagone. C'est Hippopotamus. Bonjour Philippe Herry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Hippopotamus. Je disais qu'il y a eu 50 ans l'année dernière. Hein. Une enseigne très connue, très familiale. C'est un Auvergnat, je crois, Christian Guignard, qui la lance. À l'époque, il n'est pas du tout là-dedans.
Ah, ses parents, ses parents étaient dans la restauration, mais lui-même était effectivement étudiant en première année de médecine. Et c'est lors d'un voyage aux États-Unis, à San Francisco, entre autres, qu'il a découvert ce concept. Mais effectivement, de steakhouse à l'américaine. Et donc, lorsqu'il est revenu en France, il a voulu transposer, bien évidemment, à la fois le nom et l'image, c'est-à-dire à la fois le logo et l'hippopotame, qui existait effectivement à San Francisco.
Mais qui n'était pas déposé.
Et donc, il a ouvert ce premier restaurant, Avenue Franklin Roosevelt, en juin 68, effectivement, sur un restaurant qui était une exploitation familiale.
Alors, c'est un succès. Le concept est le même, hein, pratiquement, depuis le départ. La viande, des prix accessibles. En 88, il y a une quinzaine de restaurants, mais alors... À ce moment-là, il décide de vendre au groupe Flo.
Alors effectivement, donc après une vingtaine d'années de développement et 15 restaurants très très connus sur Paris, puisque la particularité en tout cas de cette enseigne, c'est d'avoir démarré sur Paris à l'inverse d'autres chaînes de restauration et notamment dans le segment du grill qui se sont plus développées à partir de la province mais sont peu rentrées sur Paris. Oui, effectivement, il y a une première session qui a été faite en 1988 donc au groupe Flo.
Dites première parce qu'ensuite il y a eu Bertrand.
Dans l'intervalle il y a eu plusieurs rachats notamment sur des rachats plutôt financiers et donc avec des équipes qui étaient bien évidemment présentes et malheureusement cette marque, cette enseigne a plutôt souffert pendant un certain nombre d'années.
Oui, il y a eu des années difficiles notamment pendant 8 ans jusqu'en 2017 notamment. Là, le chiffre d'affaires repasse en positif en 2017.
Nous sommes arrivés, le groupe Bertrand dans sa globalité, nous sommes arrivés le 27 juin, puisque c'est la date effectivement de reprise. Donc à la fois la reprise du groupe Flo dans son intégralité et au travers du groupe Flo, bien évidemment, de la reprise de cette magnifique enseigne qui est Hippopotamus. Et donc il y a un travail déjà d'anticipation que l'on avait mené, donc ce qui nous permettait d'aller assez vite à la fois dans le diagnostic, puisque c'était une enseigne parisienne, donc on y allait assez régulièrement. régulièrement. Et c'est une enseigne, effectivement, qu'on suivait déjà de longue date. Donc, ce qui nous a permis d'être à la fois réactifs et mener, bien évidemment, tout le travail que l'on a fait en l'espace de 18 mois.
Que dit notre coach, Mathieu Davis ?
Alors, l'hippopotame a disparu.
Oui, c'était une volonté.
Un peu comme la mascotte Ronald McDo. Et a priori, il y a une sorte d'ère de disparition des mascottes. On dit souvent que quand on rebrande une marque, quand on fait un changement de marque, c'est soit lié à des difficultés financières, soit parce qu'il y a eu un scandale, ou soit parce qu'on est sur un repositionnement de groupe, de fusion, d'acquisition. C'est quoi, vous, l'explication qui a fait disparaître l'hippopotame qui plaît pourtant à nos enfants ?
Mais c'est un petit peu toutes ces explications-là. Il faut savoir que nous, quand on est arrivé, on a repris cette marque et ce groupe, bien évidemment, qui était en difficulté. Et dans la dynamique que l'on souhaitait donner, c'était une remise à plat de tous ces éléments de marketing. Donc ça passe effectivement par une remise à plat, oui, du logo, donc de l'image. Et pour nous, l'hippopotame correspondait aussi à une certaine époque, plutôt aux années 80. Et donc, pour nous, la marque, au travers de cet hippopotame, manquait foncièrement un peu de maturité. Et c'est pour ça qu'on a revu, bien évidemment, ce logo, en intégrant à l'intérieur de ce logo, donc, l'année de création qui est de 1968, parce qu'effectivement, je pense que c'était bien aussi, dans cette nouvelle dynamique, d'asseoir la marque et de faire comprendre à nos consommateurs et nos convives qu'on est là quand même depuis 50 ans.
Il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment la décoration. Vous avez donné un coup de jeune à Hippopotamus. Vous avez gardé évidemment la viande, hein, qui est le produit phare quand on pousse la porte de vos restaurants. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour avoir la traçabilité et en même temps faire face à un mouvement qui est clairement un mouvement de société, qui est le mouvement vegan ?
Alors par rapport à nos achats de viande, il faut savoir qu'on a une centrale de référencement avec un acheteur viande qui est dédié essentiellement à cette matière première, qui lui-même travaille avec des industriels du monde de la viande, donc des gens connus et reconnus. Et donc au travers de cela, on a un cahier des charges assez exigeant qui détermine à la fois de la traçabilité, mais au-delà de ça, qui détermine l'âge des bêtes, le muscle effectivement des animaux que nous souhaitons. Et donc on a une présélection qui s'opère avec chacun des industriels. La marque, c'est à peu près 1700 tonnes de viande par an qui sont consommées dans les 140 restaurants et Hippopotamus.
Oui, et pas de problème avec les véganes, en tout cas pas jusqu'à maintenant.
Non, mais je pense que voilà, on respecte tout le monde, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense qu'après, il y a quand même aujourd'hui 92% des Français qui consomment de la viande, je dirais de manière régulière, d'une à deux fois par semaine. Donc ce n'est pas aujourd'hui... voilà, quelque chose qui est contraignant, on est attentif à ça. C'est pour ça qu'à l'intérieur de nos nouveaux restaurants, pour répondre potentiellement peut-être à cette baisse de consommation, on a intégré un nouveau mode de cuisson, donc, qui est la cuisson à la graisse, qui nous permet effectivement d'élargir un peu nos profondeurs de gamme, de faire rentrer ce qu'on n'aurait jamais imaginé chez Hippopotamus, de la dorade entière cuite à la braise, des moules, des crevettes, toutes ces choses-là, c'est aussi une manière de répondre un petit peu à...
D'élargir la gamme, en tout cas.
Élargir et répondre un peu aux tendances de consommation. Mais il y a une baisse de consommation, certes, dans les foyers, mais pour mieux la consommer à l'extérieur.
2500 salariés, effectivement, 140 restaurants, c'est Hippopotamus, l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous, je vous en prie.
Il est 13h49.
Europe 1.
Comment restaurer la confiance entre la grande distribution et les consommateurs ? Une start-up a peut-être trouvé la solution. C'est Connecting Food, sélectionné au Trophée de l'Avenir. A tout de suite.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 et c'est l'heure de la solution du jour, Raphaël.
Oui, pour les trophées de l'avenir qui auront lieu le 11 février, aujourd'hui Elisabeth, vous nous présentez une entreprise dans la catégorie alimentation, entreprise qui mise sur la transparence dans la chaîne de fabrication des produits alimentaires.
Oui, comment restaurer la confiance du consommateur ? Alors après les nombreux scandales alimentaires souvent causés par des erreurs lors des différentes étapes de la fabrication des produits, des entrepreneurs ont eu l'idée de changer les cahiers des charges classiques pour faire en sorte de détecter un problème dans la chaîne alimentaire en amont et pas une fois qu'il faut retirer le produit. C'est ainsi qu'est née Connecting Food, une start-up qui a mis au point une blockchain dédiée à des filières sensibles comme le porc, les œufs, la volaille, le bœuf ou encore le lait. La blockchain qui est normalement utilisée dans les crypto-monnaies et à long terme, cela pourrait devenir un partenaire de taille
pour la grande distribution pour redonner confiance aux consommateurs.
Bonjour Stéphane Ovolpi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Connecting Food. Vous avez trouvé la solution pour finalement nous reconnecter, nous consommateurs, avec les produits alimentaires de la grande distribution.
Tout à fait. Donc Connecting Food né justement avec cet objectif de reconnecter le consommateur avec son alimentation et les producteurs entre eux. Donc Connecting Food est la première solution digitale qui permet de tracer le parcours d'un produit tout au long de la filière, de la ferme jusqu'au consommateur final, et d'auditer à chaque étape de la filière que les promesses, les engagements qualitatifs sont bien respectés. Tout ça est totalement digital, totalement automatisé. Nous utilisons la blockchain pour enregistrer ces données, pour les rendre infalsifiables et permettre ainsi à nos clients, qui sont les marques et les distributeurs, de montrer à leurs clients, donc les consommateurs finaux, que les promesses sont bien respectées et de mieux maîtriser leur filière en temps réel, tous les jours, lot par lot.
Alors concrètement, comment faites-vous ? C'est quel système mis en place ? Vous êtes allé voir les marques ? Vous êtes allé voir la grande distribution ? Comment ça se passe ?
Alors nous allons voir les marques et la grande distribution qui sont nos clients, mais nous avons développé une solution indépendante et industrialisable qui permet de capter de l'information en temps réel à chaque étape de la filière et de la comparer avec les critères
du cahier des charges initial.
Tout à fait.
Alors, vous auditez donc en temps réel le parcours des produits. Donc, l'objectif, c'est de tracer les produits pour s'assurer de leur conformité. Et s'il y a un problème, à ce moment-là, vous alertez ?
Absolument. La solution lève des alertes en temps réel. Encore une fois, dès que le problème est levé et identifié, on informe nos clients, marques et distributeurs, de la problématique. Et eux, ils peuvent intervenir en temps réel, ce qui permet de maîtriser la filière, mais aussi d'éviter le gaspillage. Parce que si vous identifiez un problème en temps réel, vous pouvez réorienter ces produits vers une autre filière moins exigeante.
Que dit le coach ?
Alors c'est fascinant évidemment d'utiliser la blockchain pour le côté authentification évidemment, mais j'ai même vu que vous envisagiez de faire des smart contracts pour rémunérer les agriculteurs et les éleveurs même modèle que les assureurs font.
Smart contracts.
Alors les smart contracts c'est des systèmes de blockchain qui sont utilisés notamment en matière d'assurance qui font qu'au bout d'un moment vous êtes indemnisé automatiquement si un événement est survenu ou pas. Par exemple avec des agriculteurs lorsque il n'y a pas eu de précipitation pendant 30 jours ils sont automatiquement indemnisés. On utilise la blockchain parce que c'est automatique et infalsifiable. C'est le même système sauf que là ça vise à la rémunération.
Absolument.
Et j'ai vu que votre société allait aller jusque-là pour prévoir donc ces fameux smart contracts, donc des blockchains de rémunération entre agriculteurs et éleveurs, c'est bien ça ?
Absolument, entre les marques, les distributeurs et les producteurs, parce que nous pensons que le maillon des éleveurs et agriculteurs est le maillon central d'une filière de production et qui aujourd'hui doit être mieux valorisé et mieux rémunéré en fonction de la qualité de son travail. Donc, nous avons prévu, nous, Connecting Food, d'allouer une partie de notre chiffre d'affaires pour rémunérer la participation des producteurs à notre système. Et les marques et les distributeurs abondent pour mieux rémunérer les producteurs d'une façon liée à la qualité auditée en temps réel. Et donc, comme vous disiez, les smart contracts permettent d'automatiser cela. Et notre solution sur smartphone permet aux clients, aux distributeurs, aux marques, de montrer cela au client final, au consommateur final, et donc de créer un cercle vertueux de valorisation des producteurs donc, auprès des consommateurs finaux.
Une transparence totale, Raphaël.
Transparence totale grâce à vous, grâce à Connecting Food. On va vous retrouver le 11 février pour les Trophées de l'Avenir dans la catégorie alimentation. Merci d'être venu
merci à vous.
Nous en parler. Merci à Mathieu David qui était notre coach.
Merci,
nous on se dit à demain,
Raphaël.